qui était contre le régime de Kiev, il était tué le 2 mai.
Yeah, party people, Joshua Dota, yeah.
Eux, c'est vraiment le cœur, c'est leur âme, c'est tout. Hein, et c'est un métier qui vient disparaître.
C'est les pubs connes qui font chier les gens, pas les pubs en général. Ça emmerde qui ?
Moi, je ne crois pas au mot révolution. Moi, je dis pour concrétiser ça en une vraie révolution, il faut des années.
Salut et bienvenue, vous êtes dans la Porte à Côté, l'émission de reportage de Radio Campus Paris. Lundi dernier, on vous emmenait à Bruxelles, en plein cœur de la nébuleuse des lobbies, ces groupes qui font pression sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Cette semaine, on part à Paris et à Strasbourg, nous avons cherché plus précisément à savoir comment fonctionnent ces groupes d'influence, quelles sont leurs méthodes. C'est l'épisode 2 d'un reportage de Tristan Goldbraun avec l'aide de Charles-Henri Despeignes, et c'est tout de suite dans la Porte à Côté.
Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, cet accord avec la Corée va être le premier qui va véritablement mettre en œuvre la stratégie Global Europe en tant qu'accord important, et donc il devrait être particulièrement exemplaire parce qu'il va créer un précédent. Or, nous constatons que d'abord, il y a un problème d'information du Parlement, notamment sur...
Manque d'information, problème de compétences. Durant ces 5 années de mandat, un député européen travaille sur énormément de sujets différents. Impossible de les connaître tous, une complexité qui fait le jeu des lobbies. Eric Alt est le vice-président d'Anticor, une association fondée en 2002 et dont le but est de combattre la corruption. Il était ce week-end à Paris, nous l'avons contacté par téléphone.
Transparency International a publié le mois dernier, un rapport qui disait les institutions européennes sont vulnérables à la corruption, sont vulnérables au trafic d'influence des lobbies. Beaucoup de lois sont négociées en coulisses, sans transparence. Et donc l'Union européenne n'est pas assez vigilante sur ce sujet. Le commissaire Siim Kallas de l'ancienne commission avait bien essayé d'être plus énergiques sur ce sujet, et le seul fait qu'il ait dû batailler pendant tout un mandat pour obtenir le simple registre et l'identification des lobbies sur un registre, ce simple fait est un indicateur d'alerte de la puissance des lobbies à Bruxelles. Et il y a un vrai sujet de capture de la décision publique, de captation de la décision publique par les lobbies. On est arrivé à un stade d'opacité qui pose un vrai problème démocratique. Songez que pour le partenariat transatlantique, le mandat donné à la Commission était un mandat secret, que seuls certains députés avaient accès aux documents concernant la négociation. Alors on dira c'est une négociation, c'est un traité, etc. Mais il n'est pas satisfaisant que des institutions démocratiques ne fonctionnent pas dans la transparence. Donc je pense qu'il y a un grand enjeu qui doit être de au moins de commencer par la transparence, par l'accès, la possibilité pour les citoyens d'accéder à l'information, possibilité pour les citoyens qui le souhaitent de savoir exactement ce que font leurs représentants. Et si ce n'est pas possible, la perte de confiance, la défiance au regard des institutions européennes ne pourra que croître.
À présent, direction Strasbourg, nous y rencontrons Cassandra, une lobbyiste colombienne qui travaille auprès du Parlement européen. Elle refuse de nous donner son vrai nom et encore moins celui de l'organisation pour laquelle elle travaille, seulement qu'il s'agit d'un lobby citoyen. Elle explique comment travaillent les groupes de pression.
Tu peux pas juste venir, le Parlement, tu peux pas rentrer non plus tout seul comme ça. Donc du coup, il faut avoir déjà des entrées au Parlement. Donc pour nous, entre guillemets, c'est facile. Les ONG, il y a déjà des personnes qui éventuellement sont sensibles à des causes qu'on retrouve sur des conférences, qui signent des appels internationaux, etc. Donc qui vont être notre interlocuteur de base. Et à partir de ça, on travaille avec eux pour chercher à agrandir le réseau. Et donc du coup, voilà, c'est des appels, c'est de venir ici, c'est de manger avec, enfin, avec d'autres personnes, de connaître des assistants, par exemple, qui vont, eux, parler à leurs députés, de lier des relations avec différentes personnes. Enfin, c'est vraiment, c'est créer un petit réseau et l'animer. Voilà, c'est, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il y a des députés qui vont prendre des leaderships dans chaque parti, donc... eux, ils vont nous informer, par exemple, d'autres députés qui sont sensibles, mais pas encore acquis, parce qu'ils ne connaissent pas assez. Donc nous, on fait venir des personnes, par exemple, par rapport à la Colombie, on fait venir un mouvement de victimes, une organisation d'avocats sur les droits humains, etc. On les fait venir, on fait une conférence au Parlement, on invite les députés, on fait des rendez-vous entre ces personnes-là. Donc ce n'est pas ma parole que je dise oui avec des statistiques, etc. Mais c'est aussi entendre, par exemple, les victimes sur certains sujets, que c'est de mettre en réseau des gens et de sensibiliser, enfin, d'éveiller un peu les députés sur certains sujets. Les députés, pas que, hein. Les assistants, par exemple, c'est aussi un public intéressant parce que finalement, il y a des députés qui s'en foutent de ce qui se passe et qui font confiance à leur assistant. Donc, par exemple, d'être proche d'un assistant, c'est pas complètement inintéressant. Ça, c'est ou des gens dans la commission, dans les gens des attachés de partis politiques. Voilà, on ne touche pas uniquement les députés, ce serait trop restreint.
Et pour Cassandra, tout ce travail d'approche a un effet concret.
Ça peut déboucher sur qu'un parlementaire va prendre la parole sur ça, par exemple en plénière, qui va demander à, enfin qui va faire une intervention, et du coup ça a du poids parce que les autres ils sont obligés de l'écouter. Bon, après évidemment, si c'est un gars qui est dans un groupe minoritaire, ça n'a pas le même poids que si on arrive à avoir une personne de chaque groupe qui s'est prononcée sur ça. C'est clair, où on est, donc on fait des pétitions, des déclarations. Il y a un groupe par exemple qui s'appelle Justice for Colombia qui est animé par un député du Labour Party qui fait des petits déjeuners sur la Colombie tous les mois sur évidemment toutes les questions qui sont liées aux échanges entre l'Union européenne et la Colombie. Donc bon, c'est vraiment, c'est de visibiliser ce qui se passe, parce que déjà avec l'info qu'il y a, on peut totalement sensibiliser. Donc il faut juste qu'ils l'entendent, qu'ils le sachent, qu'ils aient accès à ça. On les informe sur ce qui se passe dans l'actualité colombienne, etc. La BBC a fait, il y a, je ne sais pas, il y a combien de temps, un an peut-être, ou deux ans, qu'ils se sont fait passer par des lobbyistes et ils ont trouvé trois députés qui auraient transcrit mot pour mot des directives en échange des chèques en tant que consultants. Donc, C'est vraiment le petit bout de l'iceberg, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui parcourt les allées du Parlement. Et ce n'est pas gênant, c'est-à-dire pour des gens, ce n'est pas de la corruption. C'est normal. C'est ça qui est le plus gênant, je pense, de penser que c'est normal. Par exemple, de la part... en Colombie, le gouvernement, il va évidemment inviter des députés à venir, tout frais payés, voilà, leur montrer les beaux côtés de la Colombie, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Enfin, tu vois, c'est des petits avantages comme ça. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Enfin, quand tu vois les trucs qu'ils organisent, les lobbies, des repas, des invitations, des colloques dans des spas, des choses comme ça. Ça, pour moi, c'est beaucoup d'argent.
Cadeaux et avantages divers, des pratiques qui, selon elle, ont libre cours au sein du Parlement européen.
Ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est normal. Tu vois, ils trouvent ça normal d'avoir ces lobbies qui sont présents, tout le temps présents, partout, qui défendent des intérêts vraiment très spécifique, et que ça marche et qu'il y a beaucoup d'influence. Moi, ça, personnellement, j'étais très choquée de voir l'influence qu'on peut avoir en tant que X sur une politique européenne. Tu vois, moi, ça me gêne. En tant que citoyenne, ça me gêne. En tant que lobbyiste, entre guillemets, je suis obligée de faire ça parce que face à nous, on a donc tout un système. Et donc, on est obligé de rentrer dans ce système pour, entre guillemets, ne pas être totalement perdant. C'est dingue à quel point on peut jouer aussi avec tout ça, et que finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de démocratie là-dedans? Je ne sais pas.
Christine Rebaud-Dallon-Bonnefoy est députée européenne depuis le 9 avril 2014, membre de la commission Transport et Tourisme. Elle a accepté de répondre à nos questions sur l'impact des lobbies dans son travail.
Alors quand je suis arrivée au Parlement européen, je recevais et je reçois d'ailleurs toujours une demande de rendez-vous phénoménale. Je répondais assez facilement et je me suis quand même rendu compte de plusieurs choses. D'une part, on a une forme de harcèlement par mail qui est quotidienne et qui est très suivie. C'est-à-dire que si on ne répond pas, il y a une relance, puis une troisième relance, des appels téléphoniques auprès de mes assistants. On peut avoir besoin d'entendre, et c'est pour ça qu'on fait des auditions, que ce soit dans le cadre très très formel et trop formel de la commission ou dans le cadre à l'intérieur de chaque groupe, on procède aussi à des auditions où on peut faire, nous, de manière spontanée, appel à tel ou tel, pas lobbyiste, mais structure, parce que ça nous intéresse, parce que c'est une commande que l'on fait d'entretien. Mais je crois qu'il est quand même très important de rappeler que c'est le député européen qui vote et qui propose des amendements, et il peut entendre des choses, mais il faut qu'il ait la maîtrise de qui il entend et de pourquoi il entend et de quel type d'amendement il fait. C'est pas le lobbyiste qui a été élu pour représenter les citoyens européens, c'est le député européen. Et il faut pas inverser l'ordre des choses. On est là pour prendre des décisions. Pour prendre ces décisions, il faut le faire de façon éclairée, mais il faut que ces éclaircissements qu'on demande, on soit aux commandes, quoi. On soit nous les demandeurs et pas ceux qui serions attentistes et ferions comme on nous demanderait de faire.
Une présence constante donc et des pratiques qui flirtent parfois avec la corruption. Pour autant, la députée l'assure, elle n'a reçu aucune mise en garde de la part de l'institution.
Quand on arrive au Parlement européen, on doit remplir, et c'est bien normal, notre déclaration d'intérêt financier, tout un tas de choses sur nous-mêmes. Mais on n'a absolument pas dans le livret du député d'alerte sur attention les lobbyistes qui peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, ce que vous pouvez faire si jamais vous étiez. Demain il se trouve justement qu'à Bruxelles on a une réunion qui est organisée par le groupe socialiste et démocrate et qui s'appelle une réunion d'information déontologique. Donc j'imagine. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu dès notre prise de fonction, que ça va être tous les éléments de mise en garde vis-à-vis de ces lobbies, puisque pour l'instant, on n'en a pas eu encore.
Une simple réunion d'information qui a lieu 6 mois seulement après l'élection des parlementaires européens. Celle-ci n'est d'ailleurs qu'à l'initiative d'une formation politique et non du Parlement lui-même, à croire que les instances de l'UE ont bien du mal à remettre en question leur fonctionnement. Pourtant, les pratiques des lobbies ne sont pas nouvelles. Plusieurs parlementaires européens sont déjà sous le coup d'enquêtes internes et judiciaires pour des faits présumés de corruption. Ce qui n'est pas sans conséquence, selon un eurobaromètre paru au début de l'année, 76% des Européens pensent que la corruption est un phénomène très répandu au sein de l'Union européenne.
La porte à côté s'est terminée pour aujourd'hui, mais patience, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et bien sûr sur le 93.9. On vous fera découvrir comment le rap s'est discrètement installé au Japon jusqu'à devenir une véritable sous-culture dans l'archipel. D'ici là, vous retrouvez tous nos reportages en podcast sur le site internet de Radio Campus Paris et sur notre page Facebook, La Porte à Côté. Salut, à lundi prochain.